Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Voilà, donc je suis sur Radio Béton, la radio rock de la ville de Tours. Je suis en présence du maître Philippe Drouillet, qui sort son livre Delirium, en compagnie de David Alliot. Le bandeau jaquette du livre l'annonce clairement, Philippe Drouillet est un fils de collabo, pire de milicien. Est-ce que c'est un héritage lourd à porter ?
Ça l'a été pendant des années, et je l'ai étouffé pendant des années. J'ai grandi, il n'y a pas que ça dans le livre, ça c'est l'ouverture, évidemment ça c'est ce qui intéresse toujours plus la presse parce que ça fait partie de l'histoire de notre pays. Et je dois dire que dans des circonstances horribles et quand je ne me sens pas bien, je dis j'ai peut-être eu de la chance que mon père soit mort quand j'avais 7 ans, parce que je ne sais pas ce que je serais devenu. Et quant à ma mère, elle m'a emmerdé jusqu'à la fin de sa vie sur la beauté, la splendeur et le charisme d'Adolf Hitler. Comme je disais tout à l'heure en rigolant, j'ai eu du bol qu'il ne m'appelle pas Adolf. Enfin bon, j'aurais changé de nom. Donc voilà, donc il est vrai que ça peut peser, mais je l'ai gardé en moi, je ne m'en suis pas servi. Et j'en ai pas fait étalage, peu de gens, à part quelques intimes, le savaient. Mais si nous avons sorti ce livre aujourd'hui, ce n'est pas du tout par hasard. Parce que j'ai senti, et je crois que je ne suis pas le seul, que dans notre pays actuellement, ça commence à puer et à sentir mauvais comme dans les années 30. Alors je me suis dit, quitte à sortir quelque chose dans une vie confiée, expliquée, il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert que moi, mes parents ont fait souffrir des gens, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire, et c'est tout. Donc voilà la raison majeure. Et en plus, ce livre est relié à un autre livre qui est important, qui est la réédition de La Nuit de Glénat, chez Glénat Éditeur, qui est un livre clé, puisque c'est la mort de ma première épouse. Et il est lié à ce livre pour une raison que je cite toujours, c'est que pendant 40 ans, M. Drouillet a fait de la bande dessinée donc à sa manière, révolutionnaire, paraît-il, c'est ce qu'il dit, les gens qui achetaient mes bandes dessinées ne me connaissaient pas. Et on me disait, on ne sait pas qui tu es. Eh bien, Delirium, au bout de 40 ans, leur permet de savoir qui est, et qui était, et qui est encore aujourd'hui Philippe Drouillet. Et les lecteurs de Delirium sont souvent, puisque le livre est à sa troisième réimpression, se disent « Quel est la vie de ce Barjot ? Je ne connais pas sa bande dessinée et j'ai envie de la découvrir. » Donc ces deux livres sont profondément liés ensemble parce qu'ils sont sortis au même moment, volontairement, et il y a une symbolique profonde là-dedans.
Malgré que je sois un grand fan, donc moi j'étais passé à côté de cette information essentielle pour vous, mais peut-être pas pour le lecteur d'ailleurs. Hein. C'est un outing là où c'était déjà établi par ailleurs ?
Non, c'est il y a d'abord eu un film catalan, puisque mon père a sévi en Catalogne, bien entendu, d'une façon épouvantable. Et j'ai mis du temps, on m'a harcelé là-dessus, par rapport à Céline. C'est David Alliot faisant ses recherches sur Céline, et puis les fameuses lettres où Céline parlait comment en va le petit Philippe, que je lui ai raconté, on les a plus parce qu'on les a vendues il y a longtemps, j'ai des photocopies, je sais pas où, bon bref. Ça couvait, fallait que ça sorte. À un moment donné, il y a des choses qui peuvent rester dans le silence, dans l'ombre, dans le non-dit pendant des années, et à un moment donné, il faut sortir. Parce que moi, je sais que dans le Gers actuellement, les nouvelles générations dont les parents ont souffert de la part de mon père, la plupart sont morts, je parle des parents, sont fous de joie parce que quelqu'un dit enfin ce qu'ils ont en eux et ce qu'ils ont souffert. Ce dont ils ont souffert. Et pour moi, c'est déjà la chose la plus importante. Je n'ai pas parlé de la politique et de la vie de mes deux parents condamnés à mort par contumace pour me faire de la pub. J'en fais pas mon fonds de commerce. Mais je me suis dit, il y a certaines personnes en France et aussi en Syrie et aussi en Espagne contre les franquistes parce qu'il a été avec Franco pendant des années, donc des républicains et qui ont souffert. Et il est temps de dire les choses. Voilà, tout simplement.
Alors, on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais finalement, est-ce qu'une autre enfance vous aurait permis ce destin ?
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que celle-là, par contre, je me la suis posée souvent. J'eusse été fils de notaire ou de grand milliardaire, peut-être, ayant tout, n'aurais-je rien fait. Et le fait de... Bon, mon père meurt quand j'ai 7 ans, on se réfugie dans le Gers, ensuite à Paris. je vais vite, on vit dans le dénuement le plus atroce, je crève de faim, on crève de faim, mais vraiment ce qui s'appelle crever de faim, des immigrés, parce que moi je suis traité comme un immigré français, je suis en Espagne, je suis le sale français, je suis en Catalogne, pardon, je suis en France, je suis le sale espagnol. Et vivant dans une famille où la seule lecture était nous deux, évidemment pour un jeune homme de mon âge ce n'est pas très intéressant, et j'ai un appétit de culture dont j'ignore l'origine, et ayant affaire à une grand-mère merveilleuse, bah, une mère con comme un balai, désolé de m'exprimer ainsi, mais j'ai eu une forme de liberté, et je me suis construit mes humanités, et j'étais assoiffé d'art, j'étais comme un gourou, j'étais comme un chaman, j'étais habité par les choses, j'avais un besoin d'art, de peinture, de sculpture, de littérature et tout ça, j'étais dans un état d'exaltation absolument totale, et on m'a foutu la paix, parce que personne ne comprenait rien dans ma famille, parce que quand je parlais de bande dessinée, maintenant la bande dessinée est un art majeur et reconnu par tous, dans les galeries, dans les musées, chez les grands collectionneurs. À l'époque, je vous le rappelle, et c'est dit dans le livre, parce que c'est aussi l'histoire d'un métier, c'était un art de débile fait pour les débiles. Ok, et on s'est battu pendant 40 ans pour se faire respecter. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai été libre dans mes... Donc il fallait que j'aille à l'école, évidemment, il fallait que je me tape l'armée. J'ai été photographe, mon premier métier, j'ai de la chance, ça aurait pu être pire. J'ai échappé de... parce que ça m'a appris après pour le cinéma, le cadre, la lumière... Et puis tout ce qui est objectif et tout ce qui est profondeur de champ et tout ça, tout ce qui est optique. Et donc je me suis construit comme un gamin tout seul qui rêvait d'une bande dessinée fabuleuse alors que j'avais grandi avec l'école franco-belge, les Franquin, les Hergé, les Jacobs et tout ça, et la bande dessinée américaine aussi. Mais j'étais persuadé qu'il y aurait quelque chose à faire, qu'il y avait quelque chose à faire et que ça allait exploser un jour. Et que, je le répète tout le temps, je ne pouvais pas être le seul à penser la même chose. C'était impossible. Et quand le premier épisode est sorti à pilote, ça a été, à part quelques ronchons qui ont dit « mais une BD, c'est une case qui suit l'autre », 99% du courrier, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le net, c'est en 69, je comprends à ce moment-là qu'effectivement, je ne suis pas le seul à penser cela. Et c'est la grande époque de la nouvelle génération, de la révolution plus ou moins réussie de 68, et là s'installe une génération en musique, en rock, en roman, en cinéma, en tout ce qu'on veut, des gens de mon âge, qui ont mon âge aujourd'hui, et qui ont conquis le monde. Donc voilà.
Moi qui suis un grand fan de Metal Hurlant, d'Alan Sloan, l'histoire du début de l'aventure de ce magazine est vraiment intéressante et bien racontée dans le livre, mais vous semblez un petit peu blasé de revenir toujours sur cette histoire de métal. Pourquoi ça vous ennuie?
Non, ça ne m'ennuie pas, mais on est comme des pauvres Beatles, parce que côté des Beatles, on est légèrement des clodos, ou même, les Stones. Ça fait quand même 25 ans qu'on donne notre bande. Racontez-nous Pilote et racontez-nous Metal Hurlant. Bon, alors il y a une certaine fatigue, et il y a eu un très beau livre d'ailleurs qui est sorti il y a 5 ou 6 ans sur Metal Hurlant, où c'est encore pire. Mais nous étions un groupe de rock, Metal Hurlant est un journal, mais c'est plus qu'un journal. C'est devenu un mouvement culturel, comme le mouvement Cobra, comme les surréalistes, comme les dadaïstes, comme beaucoup d'autres. Et c'est devenu quelque chose de mondial. Nous avons révolutionné la bande dessinée. Nous sommes d'abord tous pratiquement nés à Pilote grâce au succès d'Astérix. C'est comme ça que moi j'ai pu exister et me faire connaître et faire ce que j'avais à faire. Et après nous avons voulu devenir indépendants. Et donc je n'ai pas de réticence. Mais des fois, simplement, parfois j'ai peur de répéter soit la même chose ou soit simplement d'oublier. Et c'était une période extrêmement intense. Et aussi l'artiste, comme tout être humain, évolue dans sa vie. Donc répéter sans cesse la même chose, il est évident. Mais il est vrai que ce besoin d'information est justifié. Parce que c'était une époque de fou. Il y a une très belle expo actuellement, je vais vite, à Landerneau, organisée par Michel-Édouard Leclerc, entre Casterman et puis Metal Hurlant, et où il y avait autant de talent dans les deux journaux, le journal à suivre et le journal Metal Hurlant, et simplement à suivre avait un éditeur à côté de lui. Nous n'avions pas d'éditeur, on était trois, on n'avait pas un rond, on était dans une pièce de 30 mètres carrés rue Studic, et on s'est battu pour que le canard existe, on était complètement défoncés du matin au soir, on s'entretuait, c'était le bordel total, c'était la folie, et puis c'est Jean-Pierre Vianney qui a construit le journal selon les préceptes qu'il avait appris de Goscinny, chez qui je l'avais amené, chez Pilote. C'est que quand on voit arriver quelqu'un avec un beau dossier, un beau dessin, même si on ne le comprend pas toujours, mais simplement s'il a du talent, on le prend pour le journal. Et donc ce journal est devenu monstrueux. Nous avons eu le heavy metal américain, 200 000 exemplaires par mois, nous avons eu toute l'Europe, et nous avons fait 14 faillites. Comme un groupe de rock. On était un groupe de rock, des malades, des cinglés. Il fallait être cinglé pour faire ce métier. Et de ce côté-là, j'ai pas beaucoup changé.
Finalement, ma mère avait raison. Elle me disait toujours que la musique ou les BD que je lisais étaient faites par des drogués, pour des drogués. Elle avait raison, c'est la drogue.
Oui, mais alors là, il y a une chose très importante que nous disons dans le livre avec David. T'es con, tu prends de la drogue, tu restes con. Il n'y a pas une drogue qui a donné du talent et de l'intelligence à quelqu'un qui n'en a pas. Moi, j'ai subi des drames atroces dans ma vie, et d'autres en ont subi encore des pires. La perte de ma femme a été terrible. Je suis tombé dans un mécanisme épouvantable comme beaucoup. Et quand je le disais tout à l'heure en riant, pas du tout d'ailleurs, quand j'ai appris la mort de Lou Reed, je me suis dit « Merde, on a pratiquement le même âge. Ça dit qu'ils font la caisse, je suis un survivant. » Donc moi j'ai toujours eu besoin d'une forme chamanique de travail, de mise en place pour couper entre le monde quotidien, le monde profane et puis le monde de la création. J'ai chargé comme un malade parce que j'étais fou allié. Je n'en fais absolument pas ni victoire, ni conquête, ni gloire. C'est comme ça. Mais j'ai toujours été addict, je suis incarné, maintenant c'est le pinard, et ça sera comme ça jusqu'au bout. Mais ça ne donne aucun talent. Ça peut simplement, éventuellement, quand on peint et quand on dessine, ça peut donner... Si on est à jeun, on aura, disons, exemple technique, un petit doute pour faire une courbe avec un crayon ou une plume ou un pinceau. Et quand on a un petit coup dans le pif, on se dit « Mais merde, vas-y vieux !» et on tape. Et en général, quand c'est bien dosé, ça se passe bien. Mais ça, il n'y a pas besoin de drogue pour ça. Chacun fonctionne, mais c'est ce que je dis aux gamins. T'es con, bah arrête, tu peux te bourrer la gueule du matin au soir, ça ne changera rien mon ami. Ça ne te donne pas de talent.
Les médecins, la société, c'est de vous protéger justement des excès de la drogue. Mais quand on vous voit ou d'autres musiciens qui ont abusé des bonnes choses, finalement, on se dit qu'il y a des arnaques parce que finalement, ça conserve, quoi.
Vous m'excuserez, cher ami, cher camarade. Il y en a quand même pas mal qui ont déquillé. Bon, c'est clair. Mais le plus fou, c'est que dans Chez les Stones, entre Keith Richard, bon, qui à mon avis n'arrête pas de moudre dans son coin. Le père, l'autre zozo, Mick Jagger, est un homme d'affaires qui mange des carottes et compagnie et qui est extrêmement surveille sa santé, sa taille, son poids et compagnie. Donc, moi, je suis à moitié fou. Il faut être à moitié fou pour être artiste. Il n'y a pas quelqu'un dit normal. Ou alors, faut être totalement. Le monde artistique amène à la lucidité, à la vraie. Parce qu'au Moyen-Âge, les fous, on les écoutait. C'est ceux qui disaient tout haut ce que ceux qui n'étaient pas fous n'osaient pas dire. Donc, moi, je suis dans une catégorie de création où tous les excès sont permis. Et les grandes folies aussi. Mais parfois, moi, je suis un survivant, j'aurais dû mourir. 3 bouteilles, 2 bouteilles de scotch par jour, plus une bouteille de vodka le soir, le pinard à midi, le pinard le soir, et puis l'héroïne, la cocaïne, bon, ok. C'était la période, c'était l'époque, beaucoup de musiciens sont morts à cause de ça. Très tôt, on va pas les citer, on les connaît tous. Donc voilà, quoi, moi, je suis addict, c'est mon problème, et puis merde, quand qu'ils aillent se faire foutre.
Ce livre permet également de suivre vos rencontres, vos amitiés, vos collaborations avec de nombreux artistes et de personnalités. Finalement, vous êtes quelqu'un d'ouvert et facile à vivre ?
Bah, ma femme dit que non, mais ça c'est une autre affaire, mais j'aime le contact humain. Et puis moi-même, je suis devenu un passeur, comme d'autres sont devenus des passeurs. Donc quand on cherche une voie, quand on cherche, on ne sait pas encore, on sait qu'on va s'exprimer dans quelque chose de précis, on le sait. Alors, ça c'est inné. J'aurais été dans une famille de musiciens, peut-être que. Et on sait, mais on ne sait pas encore. On n'a pas la clé. Alors on va dans les musées. On va dans les musées, on a 12-13 ans, on va au musée du Louvre, on se barre en courant en disant ils ont tout fait, c'est pas la peine, casse-toi et achète un couscous et puis démerde-toi. Et puis on tombe sur des gens qui vous aident, des gens qui vous parlent, et des rencontres avec d'autres artistes, parce qu'évidemment on cherche. on renifle, on va sur les territoires de chasse, on va dans les festivals, on va dans les vernissages quand on en veut, quand on a la rage. Et c'est là où on se fabrique. Et à un moment donné, la littérature, le cinéma, les musées, tout ça, vous ouvrent des voies. Et à un moment donné, on se dit, après tout, même si on a fait mieux avant moi, moi je fais ce que j'ai à faire, ce que j'ai à dire, parce que je suis vivant, je vis dans mon siècle, et je veux me faire accepter par mon siècle. Et surtout, je veux vivre de mon travail. C'est tout, c'est très très important. Donc voilà, j'ai rencontré les gens Boulet, j'ai rencontré Guy Boucher qui va faire entrer dans le design Pâte de Verre chez Dôme, j'ai rencontré Benjamin Rothschild pour qui j'ai travaillé pendant 10 ans, où j'ai fait 250 pièces de mobilier et de la déco et de l'architecture avec Bruno Legrand, j'ai fait le tour du monde grâce à lui, j'ai construit des tonnes de choses, je touche à tout. Donc c'est ce qui me passionne, j'ai un univers que j'ai ouvert à travers plusieurs modes d'expression différents. Mais tout ça est lié à l'enfance, tout ça est lié au choc de l'enfance, et un artiste, même à l'âge que j'ai, ne doit jamais trahir les vœux qu'il s'est fait à son enfance, les promesses qu'il a fait quand il était enfant. Et il faut garder ce lien, c'est très important. Ceux qui perdent ça sont foutus à mon avis, ou ça devient des gros cons, quoi, c'est tout.
Par contre, au niveau des collaborations avec le monde du cinéma, on sent que vous êtes passé un petit peu à côté, quoi. C'était par peur de se faire bouffer ou d'avoir des projets non maîtrisés par cette industrie un petit peu galopante?
Non, pas du tout. C'est lié à un moment donné, c'est dit dans Delirium. Ma femme meurt. Moi, je suis dans un état terrible et je dois faire l'album la nuit. Et c'est là où toutes les propositions de cinéma me tombent dessus. Ceci étant, je tourne le clip de Scheller, on a eu des victoires de la musique, plus 9 prix. J'ai fait des séries télé en 3D, images de synthèse, Excalibur. J'ai fait des Wagner, le premier s'est vendu à 500 000 exemplaires. C'est des roms dans le monde entier. J'ai collaboré à des films. J'ai travaillé sur Les Rois Maudits avec, José Dayan. J'ai fait tous les décors. Je pense que si j'avais voulu m'acharner effectivement sur le cinéma, j'y serais arrivé. Mais il y a eu et c'est très bien expliqué dans le livre, c'est pas tombé au bon moment. Et il est vrai, moi je perds mon épouse et beaucoup de mes amis me disent « Bon, t'as tout perdu dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire ? On te propose d'aller aux États-Unis, on te demande de faire un film, vas-y, change de vie. » Non, je voulais rester, je pouvais pas partir. Et résultat, avec ma nouvelle épouse, 3 ans après, je vais là-bas, il tourne Buck Rogers, et je le dis dans le bouquin, je vois tous mes dessins au mur. Et ben, j'ai influencé le cinéma quelque part, c'est presque aussi bien de l'avoir fait ainsi. Parce que, comme nous savons tous, le cinéma est un art d'amitié, de respect, de fraternité, où tout le monde s'entend merveilleusement bien, surtout quand on entend la promotion. Et après, quand vous avez un pote, parce que je suis dans le milieu du cinéma, j'ai beaucoup bossé, qui est technicien à haut niveau, qui me dit « Putain, je vais me faire chier pendant 6 mois avec une bande de cons qui ont passé leur temps à se taper sur la gueule tous les jours », on se marre. Bon, donc voilà. Je crois que j'avais des choses à prouver parce que j'étais aussi un passionné d'images de synthèse et j'étais un des premiers et je l'ai prouvé. J'ai prouvé que je savais réaliser et donc voilà. Donc j'aurais aimé faire un long métrage, c'est pas impossible. J'ai toujours des projets dans ce domaine, mais je me sens plus maintenant, ayant fait le travail que j'ai fait, frustré. Mais il est vrai que c'est tombé dans un moment épouvantable. Je pouvais pas. J'étais sous la terre. Donc j'avais le cul sur le volcan. Alors à ce moment-là, on a autre chose à faire que s'occuper d'une caméra.
Finalement, après la fin de l'épisode Métal Hurlant, dans le livre, on parle plus trop de bande dessinée. C'est fini, la bande dessinée, pour vous?
On continue, mais simplement, je passe des années aussi, au Théâtre du Soleil. Et je fais de la sculpture, je fais de la peinture, je fais ce que j'ai dit, des clips, je fais des séries télé, je fais Salambo que je termine en 87, ensuite j'arrête pendant quelques temps K.O. en 2000. Il est vrai que pour un amateur de bande dessinée, il veut son album tous les 3 ans. Avec le Perdrier, c'est pas possible, c'est foutu. Alors à une époque, on n'avait pas sorti des bouquins comme le Pavé ou comme le 30-30 ou comme d'autres, où on voit tous les travaux que j'ai fait pendant des années parce que j'ai jamais arrêté de bosser, parce que c'est ma drogue, ma vraie drogue. Alors les gens de BD m'engueulaient quand je faisais de la peinture en disant « tu fous rien », et les gens de peinture m'engueulaient quand je faisais pas de peinture en disant « tu nous fais chier avec ta BD, t'en branles pas une ». Donc voilà, c'est toujours ça. Donc c'est à l'artiste de se débrouiller et de faire ce qu'il a envie de faire, parce que la vie est malheureusement à la fois très très longue, très courte. Et on a peu de temps pour faire tout ce qu'on a encore dans la tête.
après l'autoportrait, pas de d'envie de comeback BD pour ce voilà pour nous en balancer une petite giclée.
Dans le genre giclée, il y en a une grosse qui arrive, hein, c'est même un océan. Après avoir fait avec Gustave Flaubert Salambo, qui est un de mes, pas de mes succès, mais un de ceux qui se vendent mieux, bah, je m'attaque parce que j'adore me foutre dans la merde, désolé de parler ainsi dans un micro honorable, mais j'attaque la Divine Comédie de Dante. Donc voilà, donc là, dans quelques mois, je réattaque la bande dessinée. Et scoop, il y a une autre bande dessinée de Sloane, qui arrive, c'est par un dessinateur. J'ai fait comme Mugus avait fait pour Blueberry, j'ai confié un Sloane à Dimitri Avramoglou, d'après un ancien scénario de Serge Lehmann qui a été reconstruit, et ça s'appelle Babel, et donc j'ai confié mon personnage à un jeune de 32-33 ans, et je disais tout à l'heure à David Alliot dans le train, il est possible. Dans la symbolique de Dante, c'est que Sloane y a accompli sa route avec Monsieur Droyer. Maintenant, ils renaissent sous les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est très beau parce que bah, c'est à nouveau un passage.
Pour finir, quelle musique a accompagné votre vie d'auteur de bande dessinée ?
Tu veux savoir lesquelles ?
Oui.
Toutes. Ça passe des tambours du Rurundi, Gagaku, 12e siècle japonais, à toute la musique symphonique, aux Sex Pistols, qui me font du bien quand je suis un petit peu énervé, et aussi d'Erik Satie, de Wagner, qui est une somptuosité, parce que c'est pas parce qu'il y a un con qui s'appelle Adolphe, et qui était, d'ailleurs, il comprenait rien à Wagner, et la moitié des crétins dormaient dans la salle, et comme a dit Zubin Mehta, chef d'orchestre juif, la musique appartient à tous, moi, toutes les musiques, à condition que, bon, bah, Daft Punk, c'est ça, ça me parle pas. Ça, c'est de la mécanique et c'est de la machine à pognon, j'en ai rien à foutre. Pour moi, la fin du rock, c'est les Sex Pistols. Ça se termine et c'est merveilleux. Par contre, comme je sais, dans la création, qu'il y a des vagues et auxquelles je crois profondément, je sais qu'actuellement, il y a une génération qui est en train de grandir et que dans quelques temps, un an, deux ans, trois ans, une nouvelle musique va arriver. C'est la vie, c'est sans cesse les cycles de vie. Donc moi, je suis absolument pas raciste dans tous les domaines, mais en musique, j'avale tout. Ça, c'est donc je passe et je travaille. J'ai des musiques pour la création, j'ai des musiques pour le calme, j'ai des musiques pour l'impuissance quand j'y arrive pas. Donc là, ça énerve. Et puis voilà quoi. Donc je suis, j'écoute aussi la radio. Parce que parfois, on a besoin, dans l'exécution, d'un peu de calme. Et quand on ne travaille pas en production, donc avec d'autres gens, là, on a besoin d'écouter la voix du monde. Parfois, elle est un peu con, parce qu'en ce moment, surtout, on est gâté. Mais bon, bref. Mais moi, je ne peux pas, je ne travaille pas sans musique. C'est impossible. Et donc, je passe de l'un à l'autre avec, j'ai appris Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, grâce à Léo Ferré. Mis en chanson, mis en musique. Aragon, je l'ai appris par Léo Ferré. C'est merveilleux. Et quand je bosse, j'écoute ça, ça me transporte. En fin de journée, quand j'ai peint des délires ou fait des planches comme à l'époque de Salambo, complètement délirante, je suis épuisé à moitié naze et pété. Je me passe du Erik Satie. Ça me calme. C'est l'heure du passage de la journée au crépuscule et du crépuscule à la nuit. Donc tout est lié sur un cycle de composition à la fois créative, graphique et musicale. Les deux sont intimement liés, donc voilà.
David Alliot, c'est vrai qu'un autoportrait en général, on le réalise seul. Et vous semblez avoir été à l'origine de l'idée. Quelles étaient vos motivations ?
En fait, je suis arrivé auprès de Philippe, non pas par la bande dessinée, mais par Céline. Je travaille beaucoup sur Louis Ferdinand Céline, et un jour on m'a dit, allez voir Philippe Drouillet. Son père était à Sigmaringen, et il a peut-être des informations sur Céline. C'est comme ça que je suis arrivé auprès de... Là, je la fais courte, parce que voilà... Mais c'est comme ça qu'en fait que on s'est connu, on a commencé à parler, j'ai publié ça dans mes travaux et j'en parle à l'éditeur Les Arènes. Je lui dis voilà, une des rencontres que j'ai fait c'est Philippe Drouillet et l'éditeur. Donc je raconte l'histoire de Philippe, la vie de Philippe Drouillet, les parents effectivement collabo à Sigmaringen, père et mère condamnés à mort à libération, etc. Puis je raconte aussi la suite et c'est l'éditeur qui me dit c'est formidable, faut faire ses mémoires. Et donc là je la fais très courte parce que ça a été quand même trois ans, hein, depuis trois ans qu'on est dessus. Et finalement bon, il a accepté à condition effectivement il en parlait, donc j'enregistrais, puis après je mettais en forme pour garder, on va dire, le ton drouilletien de la parole.
Tu racontes qu'il a fallu revenir à la charge, quitte à se faire envoyer paître, de se faire traiter de merdeux. Ça fut une entreprise difficile ?
Une fois que c'était lancé, non, le plus dur c'était de le convaincre, parce que il était pas très chaud, mais après il a vu qu'il allait avoir 70 ans, il y avait une date importante, qu'il y avait des expos, qu'il y avait le musée d'Orsay, enfin des rétrospectives, donc à un moment donné il s'est dit bon bah allez, on y va, quoi. Mais le plus dur c'est de le convaincre, après ça a été.
Ok, merci Philippe, merci David.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.